Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast S'ouvrir à soi. Je suis Céline, professeure de yoga, passionnée par la philosophie de la vie en général, la spiritualité, le développement personnel et analyste en design humain et aussi en clé génétique. Aujourd'hui, j'avais envie vraiment d'aborder un thème qui me tient à cœur parce que c'est des conversations que j'ai très régulièrement et que c'est aussi un chemin que j'ai dû moi-même faire et que je continuerai à faire, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, on va parler de cette peur d'être nous-mêmes et surtout la peur que l'on a d'être vu vraiment comme on est. Peut-être être vu dans notre sensibilité et dans nos failles et peut-être dans notre personnalité, dans notre différence. Et du coup, qu'est-ce que tout ça nous empêche de faire en fait et qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Donc, c'est vraiment aujourd'hui la peur au final d'être soi en fait et qui bloque beaucoup de gens. Je vois dans mes consultations, dans mes cours, en fait, beaucoup de « Ah mais non, ça, je pourrais jamais. Alors, je pourrais jamais assumer mon point de vue, proposer mes services, peut-être me colorer les cheveux en rouge ou sortir seule. » Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de gens ont plein d'envie quand on leur parle comme ça, en tête à tête, en face à face. Ils ont voilà, un peu des rêves enfouis, etc. Mais ils freinent des quatre pieds parce qu'ils ont peur. Et souvent, c'est donc cette peur de « qu'est-ce que l'on va penser de moi si ?» Alors, en fait, au final, vraiment, tu rêves hein, d'être toi. Et d'ailleurs, ta vie, elle peut te sembler, du coup, hyper fade. Ou alors, tu peux trouver que tout ça va être vraiment trop difficile parce qu'il n'y a peut-être plus jamais chez toi cette innocence de l'enfant qui rêve puis finir par réaliser les choses. Tu sais, c'est un peu comme si, quand on était petit, là, on a tous un moment, et d'ailleurs, il y a plus beaucoup de plongeoires dans les piscines, mais en tout cas, moi, ma génération, là, 80-90, il y a un moment, on devait monter en haut du plongeoir, à la queue leu-leu, et saute. Et du coup, bah, voilà, on avait des fois le cœur qui tapait, et puis on enviait peut-être ceux qui, « Oh ouais, ça va être une expérience, c'est génial, allez, on y va, ouais, qu'est-ce que je vais ressentir ?» Et nous, on avait peur, et en fait, bah, peut-être poussé par les autres, on a fini quand même par se forcer à sauter et waouh, on ressortait de là, on était hyper fiers de soi, d'avoir osé, etc. Et voilà, et peut-être adulte, bah, c'est triste, mais on s'empêche maintenant de rêver, on s'empêche d'oser. Alors on rêve peut-être la vie des autres et on peut même devenir un peu jaloux ou carrément victime de ses peurs parce qu'on n'ose pas se sentir nul, etc. Alors t'es adulte et du coup t'as peut-être carrément les boules en fait, t'as l'impression de passer à côté de ta vie. Mais il faut comprendre que si déjà petit c'était difficile, qu'à l'adolescence on t'a pas laissé faire ta révolution, que t'es resté peut-être un peu timide, réservé ou en tout cas juste dans ton mental et que tu t'es empêché d'eux, que t'as jamais osé parler de tes rêves, de tes aspirations aux autres, et bah c'est bien le secret. Mais en fait, j'ai une vérité à te dire, t'es en train d'étouffer. Tu dis oui des fois, alors que tu veux dire non. Tu t'adaptes, tu te retiens, tu doutes, t'es pas sûr de tes choix, t'as peur de regretter. Et en fait, tu tombes typiquement en fait dans la roue du hamster. Hein. Alors, il tourne. Il sait même plus pourquoi il court, mais il court. Et en fait, bah, la vie, ouais, elle passe et tu peux la trouver, mais hyper fade, sans goût et te dire, bah, est-ce que ça vaut la peine tout ça, quoi? Est-ce que ça vaut la peine juste que je me lève pour aller travailler dans un truc qui me passionne pas, juste pour payer mes crédits, pour payer les études de mes enfants et moi? Qui es-tu? Et si tu te montrais vraiment, en fait, qu'est-ce qui se passerait? Et la peur derrière sous-jacente à tout ça, des fois, c'est est-ce qu'on t'aimerait encore? Donc, dans cet épisode, je vais te parler un peu de cette peur sourde, invisible mais tenace, qui est celle d'être vue dans ta vérité, dans ton authenticité. Je trouve que le mot authentique, hein, je fais une petite parenthèse, il est complètement galvaudé aujourd'hui. On entend parler d'authenticité partout et au final... les gens des fois qui prônent le plus ça, eh ben, ne le sont pas du tout. Ils sont rentrés eux-mêmes dans des personnages, etc. Donc, être authentique, au final, si tu l'essayes vraiment, c'est un peu comme si t'arrivais à poil à te balader dans la rue, quoi. C'est vraiment montrer ta vulnérabilité, montrer ta sensibilité, montrer tes points de vue, oser être toi. Et c'est une peur que moi-même j'ai longtemps portée, hein. Et c'est intéressant, vous voyez, de voir revenir vraiment comme dans des miroirs dans mes accompagnements, ces mêmes personnes. En yoga, je les vois, en fait, vos yeux qui se comparent à celui de droite, de gauche, qui se dévalorisent direct, en fait. Des fois, j'ai des nouveaux élèves qui arrivent et qui, dès le départ, viennent me voir. Alors, je te préviens, hein, moi, je suis nulle, je suis pas souple, je sais que je vais pas y arriver. Ok, eh bah, super, ça démarre bien. Et même dans mes coachings, en fait, je vois les gens aussi, quand je parle d'eux et que je leur dis, tu as cette facette dans ta personnalité, on me dit, ah, oh, mais non, mais là, c'est pas possible. T'es pas en train de parler de moi, en fait. Je suis pas forte, moi. Je suis pas faite pour diriger. Je suis pas faite pour faire de l'argent. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble d'aborder tout ça, de parler de comment libérer, de se libérer de la peur du regard de l'autre et même de notre propre regard qui est tellement dur souvent envers nous-mêmes. On va essayer d'oublier la perfection. On va essayer d'oublier les je suis pas assez. On souffle un bon coup ensemble et on va essayer de comprendre un peu, de dénouer tout ça et de voir pourquoi peut-être on s'auto-sabote constamment. Alors attention, bien sûr, ça peut piquer, c'est pas agréable, mais en fait le changement n'est jamais agréable. Hein. Il y a une citation comme ça, je ne sais plus de qui elle est, qui dit que tout grand changement sera précédé d'un grand moment d'inconfort, un peu d'une tempête et du chaos. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs hein, qui se réveillent des burn-out, mais il a fallu en arriver au burn-out. Donc oui, c'est pas confortable. Donc déjà, il faut que tu te déculpabilises et que tu essaies de comprendre d'où viennent ces conditionnements, d'où ça peut venir en fait, ces peurs que tu as en toi de ne pas oser être toi-même. Donc déjà, si je viens au début, ça peut vraiment venir de ma petite enfance en fait. Quand on est enfant, on essaye d'être aimé de ses parents. On essaie de ne pas être puni. Donc on se dit, si je fais pas bien ci, pas bien ça, hop, on commence à nous conditionner dès la petite enfance, même à l'école. Il faut pas te dépasser, il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça, tu dois rester assis, tu dois pas bouger. Sachant que même un adulte, moi qui ai fait des formations adultes, c'est difficile de rester assis sur une chaise 3-4 heures sans bouger, sans avoir la tentation de regarder son téléphone, d'aller faire pipi, de sortir, de regarder par la fenêtre. Et on demande ça à un enfant. Donc lui, il veut être aimé. Il veut être aimé, il a peur d'être rejeté par ses parents, il a peur qu'on se moque de lui. Donc il essaye d'être comme tout le monde, d'être un peu le bon petit soldat qu'on attend de lui. Pour bah voilà, pour avoir en retour de l'amour, de la reconnaissance et au final le regard aussi de ses parents ou des adultes qui lui disent c'est bien ce que tu fais, etc. Il y a toutes ces injonctions au final, soit dans notre éducation, soit vraiment sociale, du sois gentil, ne fais pas trop de vagues, ne te fais pas remarquer. Il y a même des traumatismes un peu plus subtils, hein. Parfois juste le regard d'un parent ou d'une maîtresse ou de quelqu'un qu'on admire un peu qui te regarde. Et le regard, il blesse plus que des mots. Ou un enfant qui te voit être un peu différent, peut-être tu sors des cases, il va te regarder genre, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et ce regard-là, il n'a pas forcément besoin d'être exprimé, c'est juste on te regarde. Et pareil, dans la cour de l'école, on a tous vécu des fois le petit groupe qui te regarde et qui sourit, qui ricane dans ton dos, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Alors tu regardes si tu as une tache, etc. Et peut-être déjà juste ton corps est différent, ton comportement est différent, et déjà on te catalogue. Donc, bah, t'essayes au fur et à mesure, et encore plus, peut-être à l'adolescence, il y a les rebelles révolutionnaires, les gothiques, les tout ça. Et puis il y a tous ceux hein, qui se retrouvent, et c'est marrant parce que ça, d'une génération à l'autre, c'est toujours la même chose, qui se retrouvent avec le jean et le t-shirt blanc, avec le jean à la mode, le t-shirt à la mode, pour être comme tout le monde, essayer de se fondre dans le moule. Alors, il faut aussi comprendre que tous ces conditionnements, ils peuvent venir aussi juste de ton énergie. Si je viens décrypter un peu en design humain, il y a différents chakras, centres en design humain qui sont ouverts ou fermés. Ça veut dire que tu as des choses où tu as ton énergie stable, constante, où tu es toi-même, et il y a des choses, c'est très influencé par les autres. Donc, si ta gorge, par exemple, elle est non définie ou ouverte, eh ben, tu cherches toujours la bonne chose à dire. Pour être vu, pour être reconnu, tu vas chercher tes mots, ça va être difficile. Ta voix, elle n'est pas constante, tu vas essayer de plaire, de te mouler. Tout comme quand ton centre G, qui est le centre de l'identité, n'est pas défini. Déjà, tu te demandes qui tu es vraiment. Donc, tu peux peut-être au final, pendant quelques années, essayer de copier un peu une copine qui a l'air d'être bien. Et puis, tiens, tu vas trouver un groupe d'amis qui a une passion et hop, tu vas peut-être essayer de t'intéresser à cette même passion parce que tu te cherches en fait. Donc, il y a des années déjà très difficiles en fonction de nos parents, en fonction de notre mode d'énergie à nous-mêmes, en fonction du milieu dans lequel on évolue. Et si je termine juste par une parenthèse sur le design humain, pareil, si on a le cœur ouvert, non défini, on a besoin de prouver sa valeur. Donc on va essayer plein plein de trucs. Et c'est ça qui est intéressant dans ces analyses de design humain ou le chemin doré des clés génétiques, et je ferai d'ailleurs un épisode de podcast là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que chacune des portes des sphères sont reliées à des ombres. Et ces ombres, eh ben, si je prends la porte 4, ça va être l'ombre de l'intolérance, ça va être la personne qui va chercher des solutions mentales, des réponses sans passer par le cœur, qui va être déconnectée de ses émotions. Donc il y a tout un chemin à faire pour se reconnecter à ça. La porte 36, pareil, c'est une porte, la porte des crises, de la turbulence. Elle va être peut-être un peu dépendante du drame parce qu'elle veut tromper l'ennui. La porte 48, c'est terrible, elle se sent insuffisante, elle va chercher à prouver sa valeur, ou la porte 32, c'est alors là, c'est le pompon sur la garonnette, la cerise sur le gâteau, elle a peur de l'échec, elle a peur de manquer de sécurité financière, donc elle va s'inventer tout un truc pour se donner de la valeur, pour se sentir suffisant, pour se sentir assez, pour se prouver à elle-même qu'elle n'est pas nulle, etc. Donc faut que tu comprennes que il y a déjà ton milieu, il y a après la société, il y a l'éducation nationale, il y a l'école, il y a les systèmes, il y a tout ça qui fait que ça te met beaucoup, beaucoup de charges pour rentrer dans un espèce de moule. Et je pense qu'on l'a tous vécu, hein, à la sixième, des gens te disent, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? On essaie de te coller très, très vite une étiquette, une identité. C'est dur de rester libre d'être soi. Alors il y a quelques peut-être systèmes alternatifs ou des parents peut-être artistes ou un peu différents qui vont tout faire pour que tu te sentes être toi-même, essayer d'assumer. Mais ben voilà, on n'est pas tous avec les mêmes parents qui ont eux-mêmes eu des peurs de leurs propres parents, n'ont peut-être pas assez travaillé sur eux, se sont délestés de certaines choses, puis se sont créés d'autres choses. Donc c'est pas facile. Et tout ça, qu'est-ce que ça provoque en silence? En silence, arrivé à l'âge adulte, ça nous provoque une autocensure chronique. Bah, tu vas parler, mais au final, tu vas mettre, comme je dis, des petits cœurs autour, ou des parenthèses, ou des filtres, pour pas dire vraiment ce que tu ressens, parce que tu sais, t'as ces gens-là qui sont avec un regard, ils sont en train de dire un truc, et ils sentent qu'ils vont trop loin, et rétrograde, parce que bah, on veut plaire, donc on va rester un peu en surface. On n'en pense peut-être pas moins, hein, mais on va se taire, hein. On connaît tous, et il y a plein de films autour de ça, autour de ces repas de famille où tout le monde fait des efforts, tout le monde lisse, tout le monde arrondit les angles, et puis à un moment, il y en a, il en peut plus, ça pète et il ose dire ce qu'il pense, qui il est, etc. Parce que c'est plus possible en fait. Il y a aussi, ça peut provoquer aussi de l'autoflagellation du coup. Ben, on se sent nul. Voilà, on rentre chez soi, on se dit, mais pourquoi j'ai pas dit ce que je pensais? Et puis, peut-être quelqu'un, c'est pareil. On a vécu ça aussi. On a une idée. Et puis, en fait, c'est le collègue qui va la dire. On va se dire, mais merde, mais moi aussi. Ouah, j'avais une idée encore meilleure. Mais pourquoi j'ai pas osé, en fait? Pourquoi? Et moi, je me souviens de mon fils qui, petit, c'est un sportif. Et en fait, il se mettait une pression de dingue. Parce qu'il disait, mais je suis pas assez bon, etc. Donc, il avait peur d'aller dans les compétitions parce qu'il avait peur de pas être assez bon pour faire progresser l'équipe et tout ça. Et il se tapait dessus ou il tapait dans les murs de colère, en fait, de se sentir, de pas réussir à se sentir assez, de s'auto-juger, de se trouver nul, etc. Il s'en voulait, en fait. Et tout ça provoque, bah, beaucoup de fatigue émotionnelle au final, arrivé à l'âge adulte, hein. Au final, on se sent des fois aimé pour un masque, pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est épuisant. On se sent presque victime de l'image que l'on renvoie, de ce qu'on représente. C'est assez intéressant. J'ai dans mes couples d'amis des gens qui gagnent très très bien leur vie. Et ça me fait penser un peu au film Les Petits Mouchoirs. C'est le mec qui sait plus si on l'aime pour son argent ou si on l'aime pour lui. Et il se demande presque, bah, qui je serais, bah, si j'avais plus d'argent, qui resterait au final autour de moi? Est-ce que les gens m'apprécient pour moi ou pour l'image du mec qui a réussi, qui a de l'argent, etc. Tout comme un peu quelqu'un qui travaillerait avec des célébrités. Bah voilà, peut-être juste mes copains restent parce que bah ça fait bien d'être avec quelqu'un qui côtoie des célébrités. Puis tu comprends, de temps en temps, elle arrive à m'avoir un autographe ou j'arrive à rentrer dans des soirées, etc. Et du coup, bah peut-être au final, on se perd au milieu de tout ça. Au début, peut-être tout ça nous plaît et puis. Puis il y a des moments de vie, il y a des épreuves dans la vie qui font qu'on remet beaucoup de choses en question et qu'on se dit, mais attends, au final, et excusez-moi pour un peu l'image à deux balles et le cliché, mais peut-être on s'auto-trahit en fait. On se sent de moins en moins à sa place, même dans sa propre vie, et on a l'impression en fait d'être moulé à ce personnage. Et quand on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît pas, on est fatigué. Et on a l'impression d'être, ouais, ce hamster dans la roue, de pas pouvoir sortir de cette vie, de s'y sentir enfermé, de le faire peut-être même pour faire plaisir, ou bah oui, on s'est prouvé que, et oui, bah maintenant ça suffit, j'ai plus envie. Et quand je dis le cliché à deux balles, peut-être au final mon rêve, c'est, bah ouais, d'aller élever les chefs dans le Larzac. Et qui ose le faire? Bah pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui ose le faire. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont osé tout plaquer et aller s'acheter une maison en rase campagne. Et alors, ils ont fait rêver beaucoup de gens. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont jugé. Non, mais attends, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est égoïste à ce moment de leur vie. Les enfants, ils les ont changés, etc. Et puis, eh ben, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils ont peut-être moins qu'avant, moins de confort de vie, moins de. Oui, ils se sont retrouvés aussi confrontés à la dureté de la vie, au retour à j'ai froid l'hiver, il faut aller couper du bois, remplir la cheminée. Ah bah oui, tiens, j'ai plus de beurre. Ah bah oui, j'ai ma voiture, ça va pas, il fait froid, il y a de la neige, je peux pas aller chercher mon beurre. Et alors, ils se sont adaptés. L'humain a une faculté d'adaptation phénoménale. Et en fait, je m'aperçois aussi que ce qui est difficile, c'est que tout ça amène une forme de tristesse, des fois même de honte de soi-même. Mais ce qui est difficile aussi, c'est qu'on renvoie aux autres, quand on change soi-même, ben, l'image de eux qui n'ont pas bougé. Alors j'ai plein d'anecdotes, hein, mais je pense à moi qui ai beaucoup changé, qui ai, je pense, perdu des gens dans ma vie, qui se sont dit, mais elle est en train de se barrer dans quoi? Et je pense aussi à toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, côtoyées grâce à tout ça. Je pense à mes retraites de yoga remplies, aux gens qui m'ont dit, il y a un avant, il y a un après, tes analyses de design, un avant, un après, tes retraites de yoga. Je repense aux clientes qui m'ont dit, il y a 3-4 ans, vous m'avez dit ça, et ça a une répercussion incroyable parce que c'était les mots qu'elles avaient besoin d'entendre à ce moment-là. Et moi qui me rends même pas compte de la puissance d'oser dire, bah, moi j'ai changé et vous aussi c'est possible. Et alors, pourquoi tu te freines? Donc, c'est important et je vais vous raconter ici un petit conte que j'adore raconter et qui dure pas très très longtemps, qui est l'histoire d'un grand-père qui va au marché avec son petit-fils et avec son âne. On imagine ça évidemment il y a quelques années ou peut-être dans d'autres pays, c'est encore très très valable, hein, le grand-père, l'enfant et l'âne. Donc ils partent, et le grand-père, avec beaucoup de bienveillance, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il le pose sur l'âne, ils partent gaiement au marché. Et là, il croise un groupe de villageois. Et là, le grand-père entend, tu te rends compte quand même, cet enfant est mal élevé, c'est le grand-père plus âgé qui devrait être sur l'âne. Donc que fait le grand-père? Il descend l'enfant, et puis mais il monte sur l'âne, et ils repartent. Ils repartent, tac, 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 il est heureux, il se dit, ah, ça y est, j'ai bien fait les choses. Et hop! Il croise un autre groupe de villageois, et puis là il entend, tu te rends compte quand même, ce grand-père, oh là là, il laisse marcher l'enfant, c'est vraiment pas sympa de sa part. Donc que fait le grand-père? Ben, il prend l'enfant, puis il le monte sur l'âne, et puis ils repartent. Et là, hop, encore un petit groupe de commères qui a rien à faire de sa journée, qui regarde et qui dit, mais le pauvre âne, tu te rends compte, il va porter les courses au retour, et puis ben là, ils sont tous les deux dessus. Donc que fait le grand-père? Il descend de l'âne, il descend le petit-fils, et puis il porte son âne, parce que le pauvre âne, en effet, il va porter les courses après. Et là, évidemment, mais il croise d'autres gens qui disent, mais il est complètement fou, pourquoi cet homme porte son âne? Résultat de la situation, c'est qu'on ne sait pas si L'enfant est malade. Si le grand-père a peut-être des soucis articulaires, a peut-être mal au corps. On ne sait pas si l'âne n'a pas sauvé la vie de l'enfant ou du grand-père qui fait qu'il le porte pour aller se faire soigner, qu'il a beaucoup de respect pour son âne. Tout ça pour te dire que quoi que tu fasses dans ta vie, n'importe quel changement que tu fasses, il y aura toujours des gens pour se mêler de tes affaires, pour juger tes comportements, mais ils ne savent pas pourquoi tu fais les choses. Ils ne savent pas pourquoi tu oses enfin faire ci ou faire cela, pourquoi tu oses enfin assumer. Et il faut en fait apprendre à faire un pas après l'autre, être doux, être tolérant avec soi. C'est un gros, gros, gros boulot de déconditionner tout ça. Que soit sur son tapis de yoga, alors je peux vous assurer, hein, pour l'anecdote, moi je me souviens très bien, mon premier module de formation de yoga, j'avais 40 ans, hein, j'étais pas très très jeune, et je me retrouve sur mon tapis à faire une pique pose, une posture de yoga assez difficile, et évidemment je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, et je regarde la fille à droite, elle y est sans problème, la fille à gauche, elle y est sans problème, et je m'effondre sur mon tapis de colère envers moi-même, de me sentir nulle, de me juger, de me dire, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu te prends pour qui? Et je partage ça à la fin de notre pratique. On est en cercle et chacun doit dire comment il a vécu la séance. Et moi, voilà, quoi. Je regarde tout le monde et je me dis, mais je me demande ce que je fous là, en fait, pour qui je me suis pris. Parce que je suis nulle. Je suis nulle, j'ai 40 ans, j'y arriverai jamais, mon corps ne suit pas. Et là, il y a un fou rire général et je me dis encore plus, ah ben merci de m'en rajouter. Et en fait, ma formatrice me dit, mais Céline, tu n'as regardé qu'à droite et à gauche. Devant toi, personne n'y arrivait. Derrière toi, personne ne y arrivait non plus. Donc pourquoi t'as regardé qu'à droite et à gauche? Et déjà, pourquoi t'as regardé à côté? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah ok, je vais faire un pas après l'autre. Je vais peut-être pas arriver à faire des postures de fou, mais bah, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire parce que je sais que ça me fait du bien. Et voilà, et on verra ce que j'en fais, mais je suis là et j'ai ma place. Et mes élèves trouvent aujourd'hui hyper facile pour moi, je chante souvent à la fin de mes cours, des mantras, etc. Et ça n'a pas été facile. Les premières fois où j'ai fait ça, je peux vous assurer que je sentais mon cœur me battre à 2000 dans ma poitrine, j'avais l'impression que les gens l'entendaient, que ma voix, elle était chevrotante et que je me disais, mais qui, pour qui tu te prends, t'as jamais pris de cours de chant, etc. Et que vont penser les élèves de ces chants en sanskrit? Ils vont peut-être croire que c'est des prières, des machins, ils vont se demander pourquoi je chante, etc., etc. Moi, je savais pourquoi je le faisais, hein. Je savais pourquoi je me dépassais à faire ça. Parce que, mais ce sera peut-être un thème d'un autre podcast aussi, les vibrations de la langue sanskrite, c'est des vibrations qui guérissent. C'est pas des prières, c'est rien de tout ça. Et depuis, mais qu'est-ce que j'ai eu en ayant dépassé ce sentiment d'imposteur, en devenant moi-même professeur ou moi-même en me mettant à chanter, mais les retours que j'ai eus entre mes analyses, entre ces cours, qu'est-ce que j'ai eu comme retour positif, merveilleux? J'ai même eu une élève il n'y a pas longtemps qui m'a dit, tu vas chanter à la fin du cours. Hein. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens maintenant qui attendent ça parce que ça leur fait du bien, en fait. Donc oui, il va falloir se regarder dans le miroir. Oui. Vraiment, va falloir enlever les filtres, je te le dis. Va falloir faire le point sur est-ce que je suis heureux. Et si c'est pas le cas, eh ben, juste je te le dis, faut te bouger les fesses. Parce que même si je crois qu'on a plusieurs vies, t'es en train de vivre celle-là, non? Donc autant bien la passer, franchement. Donc regarde tes masques, écoute-toi. Quand tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de dire là? C'est moi qui parle ou c'est une part de moi raisonnable, au final toujours logée dans ses peurs? Dans ces croyances auxquelles je me raccroche comme une moule à son rocher, alors que ça signifie peut-être plus rien pour moi. Alors remercie ces masques, hein. Ils t'ont protégé des armées comme une armure, mais stop. Autorise-toi à déplaire, à ne pas correspondre, à être trop intense, à être trop sensible, à être trop silencieux. Et alors, c'est quoi la personne parfaite? Tu crois que c'est celle qui sait qui elle est? Qui est pleine de fêlures réparées, qui s'assume, qui dit ce qu'elle aime ou pas, celle qui ne plaît pas à l'autre, qui se sent libre, qui s'écoute, ou alors c'est celle qui se conforme. Je me souviens d'un de mes cours où, au milieu du cours, j'ai une femme qui s'est levée et qui s'est barrée de mon cours. Et j'ai même aidé, parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte, elle se sentait enfermée, donc je me suis levée calmement au milieu du cours. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit merci, au revoir. Et mes élèves m'ont dit à la fin, mais waouh, qu'est-ce que t'es resté calme, etc. C'est dur pour l'ego de pas savoir pourquoi la bonne femme, elle se barre, etc. Et ouais, aujourd'hui, mes cours plaisent pas à tout le monde. J'assume. J'assume d'avoir des cours où je secoue, qui sont spirituels, d'avoir des cours intenses, d'avoir des cours où on a des fous rires, d'avoir des cours où les gens pleurent. Et j'aime ça. J'aime ça. Être peut-être différente et assumer complètement la différence. J'ai pas envie, à la fin de ma vie, d'avoir senti que j'avais été lisse, que je m'étais conformée. Je l'ai fait trop d'années, en fait. Donc, autorise-toi à te tromper, à changer. Merde, mais profite de la vie. Tu rêves d'un piercing au nez? Si ça te tente, ça s'enlève, en fait. Donc, essaye. T'as envie d'avoir les cheveux roses? Bah, pareil, si ça te plaît pas. Si c'est ton kiff du moment, même si t'as 40 ans et que tes gamins te prennent pour une folle, on s'en fout. T'as envie d'essayer la poterie, de courir, de chanter, bref, de te sentir juste libre d'être toi, eh bien, fonce. Fonce, fonce, fonce. Et tu verras peut-être qu'un jour, c'est toi qu'on va commencer à jalouser aussi un peu par peur d'oser. Ou c'est toi, on va dire, waouh, t'as osé, mais waouh, tu t'es mis en avant, tu exposes tes tableaux, waouh, mais et t'en vends et tu vis de ça. Eh ben ouais. Il y a un moment, t'as osé, ça n'a pas été facile, t'es sorti de ta zone de confort et qu'est-ce que tu peux être fier de toi. Donc, fais ce qui te fait du bien. Laisse les choses changer dans ta vie. Assume qu'un jour le matin, tu as envie de prendre ton thé, tes tartines, et le lendemain, tu as envie d'un jus d'orange, et le surlendemain, t'as pas envie de déjeuner. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, j'ai eu une personne dans ma vie, j'ai eu des moments de ma vie où oh, je me suis sentie nulle parce que j'ai une cliente le matin qui me disait oh, vous avez vu le tremblement de terre hier, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à regarder les infos. Et puis au bout d'un temps, je me suis aperçue que les infos, bah, c'était négatif et que ça me plombait le moral, donc j'ai arrêté de regarder les infos. Et cette même personne m'a dit, mais attends, tu regardes plus les infos, mais avant tu regardais les infos. Pourquoi maintenant tu lis le matin? Pourquoi tu déjeunes si? Et maintenant, pourquoi tu déjeunes plus si? Et alors? Comme on dit, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Et chaque personne a une énergie unique qu'elle est venue à partager au monde. Et non, tu peux pas plaire à tout le monde. Certains critiqueront comme les villageois sournois, mais j'ai envie de t'ajouter pour un peu clôturer cet épisode que j'ai aussi une vision des êtres avec la réincarnation, le karma, etc. J'ai envie de te dire, toutes les âmes n'ont pas le même âge, la même sagesse, les mêmes leçons à comprendre. Donc ouais, il y a aussi des cons dans la vie qui vont te servir de miroir, qui vont te faire mal, mais c'est comme ça et t'y peux rien. T'as même, en effet, tu vas assumer tes opinions sur les réseaux sociaux et tu vas avoir les haters qui vont dire, bah, attends, n'importe quoi, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, t'es con de penser comme ça et s'ils sont ouverts, vraiment, peut-être on va pouvoir argumenter et peut-être ça va changer quelque chose dans leur vie. Peut-être ça va rien changer parce qu'ils sont pas prêts. Et ben tu vas les bloquer et c'est pas grave. Tu peux pas être aimé par tout le monde, mais c'est comme ça que tu vas te sentir à ta place en fait. C'est en te tenant debout dans ta vérité, même quand elle tremble un peu. Le monde a besoin de toi, pas juste de ta version bisounours tout mignon avec des petits cœurs qui plaît à tout le monde, qui veut être aimé de tout le monde. Elle a besoin de toi. Rappelle-toi comme un mantra, je me choisis, même si ça fait peur, je me choisis, même si on ne me comprend pas, je me choisis parce que je suis déjà digne de ça, de ce que je suis, de ce que j'étais et peut-être de ce que je deviendrai. Peut-être que cet épisode, si je le retourne dans un an, je te dirai encore d'autres choses parce que j'aurai eu d'autres expériences et c'est OK. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, commente, partage. Fais-le circuler s'il te plaît. Et si tu veux faire du yoga avec moi, ben rendez-vous sur mon site ou sur ma page Instagram, savoir où j'enseigne. Si tu veux ton analyse de design humain avec des audios ou un rendez-vous direct ou par vidéo, contacte-moi. Je peux aussi te proposer de cheminer dans les clés génétiques. Je ferai aussi un épisode là-dessus dans pas longtemps sur la contemplation des clés génétiques. Pardon, je bafouille, c'est la fin. C'est aussi l'excitation qui retombe et la joie d'avoir encore osé faire un épisode de podcast. Je te dis à très bientôt.